Bonjour chers amis. Des manifestations ont récemment éclaté en Europe de l'Est, provoquées par une vague massive de frustration envers le gouvernement au pouvoir. On observe un regain d'extrême droite qui prône la prétendue idéologie souverainiste. On observe également une résistance de la part de ceux qui croient en un projet européen transnational et en la démocratie. Cependant, tous ces groupes estiment que le système est défaillant, que les élites ont accaparé tout le pouvoir et toutes les richesses, et que les inégalités sont devenues insupportables. Presque tout le monde a le sentiment de ne plus être traité avec respect et égalité par ceux qui sont au pouvoir. Quand nous voulons dire que nous voulons l'égalité, que voulons-nous dire? Même salaire pour tous, même apport calorique, même taille de maison, même consommation d'électricité quotidienne, même quantité de déchets ménagers, même pouvoir politique, même influence ou même renommée. Intuitivement, beaucoup d'entre nous pensent que l'égalité n'est pas l'ordre naturel d'une espèce. Certains sont plus forts que d'autres, certains ont les cheveux bouclés, certains sont doués en musique, certains aiment la routine et les mathématiques. Ce ne sont pas des choix. C'est la loterie de la naissance. Pourtant, la gauche politique persiste à prôner l'égalité, ce qui exaspère les capitalistes méritocratiques épris de liberté. Posons-nous 6 questions. Et si nous visions l'égalité comme un principe moral, fondé sur les conséquences qu'elle produit? L'économiste non-conformiste, millionnaire et ancien trader Gary Stevenson parle abondamment des inégalités de richesse et de la manière dont nous devons y remédier. Il souligne à juste titre que les inégalités économiques sont si importantes aujourd'hui parce que les gouvernements ont laissé les riches accumuler leurs richesses en toute impunité. Le philosophe Michael Sandel souligne que l'égalité comporte 3 aspects. Le premier est économique, le deuxième est politique et le troisième concerne les relations sociales, la dignité, le statut et le respect. Si l'on raisonne en termes de conséquences, il est évident qu'une société fondée sur l'égalité produit de meilleurs résultats pour tous, à gauche comme à droite de l'échiquier politique. Alors oui, nous devons taxer la richesse et non le travail, mais le faire de manière à ce que la dignité, le statut et le respect soient également reconnus. La deuxième question est, et si nous visions l'égalité comme un principe moral en soi? Imaginons que nous ignorions que l'égalité produit de bons résultats. Disons que nous devrions avoir l'égalité, car c'est la bonne chose à faire. La nature nous crée avec des différences, mais elle ne choisit pas les gagnants et les perdants. Elle ne porte pas de jugement moral, puisque la vie est une loterie génétique. Puisque le privilège est une question de chance, de naître dans le bon pays, au bon moment et de bons parents, nous devrions nous guider par des principes qui reconnaissent le caractère aléatoire de la vie. Nous pourrions reconnaître que nous sommes des acteurs égaux dans ce jeu du hasard. C'est la position morale la plus inclusive que nous puissions adopter, car elle reconnaît que les humains sont une forme de vie parmi une vaste diversité de nombreuses autres espèces. La troisième question est, et si nous considérions l'égalité comme un facteur de survie maximale? Nous vivons la 6e extinction massive d'espèces. C'est un fait. Il y a eu 5 extinctions majeures par le passé, toutes causées par des événements naturels sur une période de millions d'années. Les humains ont amorcé la 6e extinction en l'espace de quelques siècles. Et elle s'est considérablement accélérée au cours de ma vie. Soyons clairs, nous ne pourrons jamais contrôler la nature. Elle est trop complexe. Elle est composée de trop d'éléments interconnectés. C'est aussi une question de physique. Pour contrôler pleinement un système, un autre système, plus complexe, est nécessaire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre dans une simulation comme dans la matrice. Le monde est réel et nous l'influençons. L'égalité, avec des limites justes et équitables pour tous, pourrait être notre meilleure chance d'enrayer la 6e extinction massive et de préserver l'habitabilité de la Terre. 4e question, et si l'égalité était considérée comme une expression de la coopération? De nombreux chercheurs ont démontré que les humains sont l'espèce la plus coopérative. Nous sommes devenus l'espèce dominante parce que nous sommes capables de coopérer, que ce soit pour planifier l'agriculture au fil des saisons, construire des structures sur plusieurs décennies et même nous faire la guerre. L'égalité peut être l'idée qui décrit le comportement et la culture que nous considérons comme bon et souhaitable. Si nous abandonnions la violence et maintenions la coopération, la fraternité, la sororité et l'appartenance, nous progresserions en tant qu'espèce sans les souffrances et les destructions que nous avons causées les uns aux autres jusqu'à présent. Cinquième question, et si l'égalité était le moyen de reconnaître un ensemble de valeurs souhaitables? J'espère que nous sommes tous d'accord pour dire que le respect et la dignité valent mieux que l'arrogance et la haine. L'impulsion à se sentir supérieur aux autres, à gravir les échelons, à être reconnu et récompensé peut provenir d'une quête de survie. En tant que civilisation, nous avons évolué au-delà de cela. Nous disposons de la technologie pour guérir les maladies et voyager dans l'espace. Nos valeurs ont évolué au-delà de la survie de la pensée primitive la plus apte. L'égalité favorise la création plutôt que la destruction. L'égalité élargit le champ de l'expérience humaine. Il ne s'agit pas seulement de bonheur, mais aussi de tristesse et de mélancolie. Il s'agit de se sentir vivant et d'avoir les mêmes chances de s'épanouir. Une véritable égalité des chances et non les moqueries promises par le capitalisme. Sixième question, et si l'égalité était la voie vers la suffisance, le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie pour tous? Nous essayons de jouer le jeu du capitalisme depuis un certain temps déjà. Nous nous efforçons d'améliorer la qualité de vie de tous. Les résultats sont, au mieux, inférieurs à la moyenne. Nous avons inventé les médicaments, mais nous ne partageons pas avec les pauvres. Nous avons inventé Internet, mais tout le monde n'y a pas accès. Nous avons des voyages aériens ultra rapides, mais ils polluent l'air. Nous avons une agriculture industrielle, mais elle détruit des terres. Nous avons éradiqué une partie de la pauvreté sur le papier, mais avec des critères très bas. Le capitalisme n'est que publicité, ne nous vantant que les bons côtés, mentant souvent et masquant les mauvais côtés. L'égalité démystifie ce faisceau de mensonges. L'égalité nous rappelle nos points communs, notre patrimoine génétique, notre dépendance à la nature, notre dépendance les uns envers les autres, notre désir de continuer à vivre. Telles étaient les six questions. Pendant que nous les examinons, examinons quelques pistes supplémentaires. Que proposent les nouveaux fascistes modérés, les nouveaux souverainistes de droite, les responsables immigrés? Ils ne promeuvent ni l'égalité ni la coopération. Ils veulent l'isolement, pas le régionalisme. Ils veulent des pyramides de pouvoir hiérarchiques, pas la démocratie participative. Ils veulent remplacer les anciennes élites par les nouvelles. Ils réclament l'austérité, des privilèges spéciaux pour les détenteurs du capital, la destruction des ennemis, la conquête des terres par la force. Dans leur système, l'accumulation de richesses est la seule valeur désirable, non pas l'accumulation de richesses pour tous, mais seulement pour ceux qui la méritent. Nous revenons à la méritocratie. Michael Sundel soutient que même si nous avions une méritocratie parfaite, même si chacun bénéficiait de conditions de vie parfaitement égales, est-ce le monde dans lequel nous aimerions vivre? La méritocratie est synonyme d'exclusion. La méritocratie punit. La mitocratie affirme que le problème est que vous ne vous êtes pas amélioré comme nous l'avions souhaité. Il y a une différence entre la compétence d'un chirurgien hautement qualifié et le mérite que nous attribuons à une célébrité qui cause plus de tort que de bien à la société. N'oublions pas non plus que la richesse de nombreux êtres humains, en particulier dans les pays riches, a été créée par le colonialisme, le vol de terres, le vol de main-d'œuvre bon marché et le vol de ressources bon marché. Tout cela en forçant les pays pauvres à emprunter de l'argent aux pays riches pour leur développement. Les pays pauvres dépensent peu pour les services publics et beaucoup pour le remboursement de la dette. 52 pays, soit 44% de la population mondiale, dépensent plus en intérêts que pour l'éducation ou la santé. C'est profondément injuste et immoral. Le capitalisme entretient les inégalités. Le capitalisme maintient les privilèges des riches, maintient les pauvres dans l'endettement et ne permet jamais leur véritable développement. C'est pourquoi l'égalité est importante. C'est pourquoi le capitalisme doit être progressivement abandonné et remplacé par une économie inégalitaire à vie. De nombreux économistes soulignent que les inégalités de richesse sont un problème. Certes, mais l'égalité exige des limites non seulement en termes de niveau de vie minimum, mais aussi de niveau de vie maximum. La société doit également exister dans les limites de la Terre pour survivre. Il ne suffit pas de taxer les super-riches. Le mode de vie de chacun doit rester compatible avec la capacité de la planète à subvenir aux besoins de tous les êtres humains, quelle que soit sa taille. La société a besoin à la fois de suffisance et de bien-être. Le jeu auquel nous jouons est un jeu gagnant-perdant. La pauvreté est restée inchangée depuis 1990, selon Oxfam. Ainsi, lorsque certains affirment que chaque milliardaire est un échec politique, je réponds que tous les super-riches le sont également. Être super-riche signifie avoir un patrimoine net d'environ 5 millions de dollars. Je poursuis en disant, à la manière de Tom Piketty, que nous ne pouvons atteindre le bien-être sans une égalité avec des marges de distribution étroites. Par exemple, un ratio de 1 sur 5 en termes de revenus, ce qui signifie que le revenu le plus élevé est 5 fois supérieur au revenu le plus bas. Un plafond de richesse d'environ 5 à 10 millions. Une limite maximale de l'empreinte matérielle et écologique par personne, quel que soit son lieu de résidence. Pour imaginer à quoi ressembleraient ces modes de vie, regardez la société à 2000 watts. Nous devons également œuvrer activement pour éliminer progressivement la recherche du profit des activités économiques. Les soins de santé et l'éducation sont extrêmement importants pour satisfaire les besoins humains et fonctionnent très bien en dehors de la logique du profit. De plus, l'accès à ces deux services doit être garanti à tous, gratuitement et de manière égale. Il devrait se développer davantage. Lorsque nous fournissons des services uniquement à ceux qui peuvent payer, nous créons une distance sociale. Nous créons une séparation. Nous encourageons l'isolement et l'exclusion. L'accès privilégié à quoi que ce soit crée toujours du ressentiment et des divisions. Lorsque nous mettons tout en vente, nous diminuons la valeur des biens et des services. C'est comme comparer un beau paysage au parking d'un centre commercial. Si tout ce que j'ai dit ne vous a pas encore convaincu, je vous invite à vous demander quels principes guident votre vie. Imaginez que vos principes soient adoptés par tous les habitants de la Terre. Cela améliorerait-il votre vie? Cela améliorerait-il celle de tous les autres? Ou, pour reprendre des mots plus savants, êtes-vous utilitariste, libertaire, un fervent partisan de la méritocratie? Si vous me demandez, et si nous affrontions le capitalisme, que mettriez-vous à la place? Je mettrai à sa place ce que j'appelle l'économie pour la vie, un système économique fondé sur l'égalité, la suffisance et le bien-être, qui répond aux besoins humains sans recherche de profit. Merci de votre attention. Nous avons besoin de votre aide pour développer cette chaîne. Si nous avons une voix plus forte que celle de la classe dirigeante, nous avons une chance de lui reprendre le pouvoir et de reconquérir notre liberté. Il n'y a pas d'autre solution. Le nombre est de notre côté. Nous pouvons commencer par nous organiser, perturber les discours des super-riches, perturber leurs entreprises, perturber tous leurs agissements. Abonnez-vous, engagez-vous, faites passer le message pour que d'autres puissent aussi apprendre. Soutenez-moi si vous le pouvez sur Ko-fi ou Patreon pour rendre ces vidéos possibles. À bientôt.